c'est le roman Frankenstein percole partout dans la culture depuis sa parution, comme ces trois jours de colloque qui s'achèvent nous l'ont bien montré. Il en va évidemment de même dans l'une de ses formes les plus populaires de fiction contemporaine, la série télé. En 2018, j'ai proposé dans le cadre des séminaires narration contemporaine une réflexion plus formelle sur les épisodes autonomes, en tant qu'expérimentation formelle et narrative dans les séries hybrides des années 90, comme The X-Files et Buffy the Vampire Slayer. Cette présentation a mené un article dans la revue TV Series en 2019, dans lequel j'avançais que ces séries qui hybrident le feuilleton et la série, hein, c'est en ça qu'elles sont hybrides, proposaient plusieurs épisodes autonomes au récit clos, donc l'épisode en soi, qui se démarquaient par leur caractère métafictionnel, expérimental et souvent ludique, mais aussi par l'idée de rupture. Parmi ces épisodes, on retrouvait ceux qui jouaient sur la transtextualité, notamment avec Frankenstein dans les deux séries. Je voyais au départ ma communication d'aujourd'hui comme un prolongement de cette réflexion, un approfondissement de ce cas singulier qui sont les épisodes frankensteiniens. Si The X-Files et Buffy proposent des épisodes ainsi qui adaptent Frankenstein et qui sont autonomes, je me suis dit que les autres séries hybrides qui ont suivi avaient peut-être fait de même. Et c'est bien le cas. J'ai ainsi découvert 6 autres séries de plus, donc entre 2006 et 2017, sans compter les séries entièrement ou largement consacrées à Frankenstein, comme Penny Dreadful, Once Upon a Time ou The Frankenstein Chronicles. J'ai donc eu envie de vous faire une proposition un peu particulière et m'intéresser à ces 8 épisodes tirés de 8 séries différentes et diffusées entre 1997 et 2017, donc sur 20 ans. Évidemment, je ne pourrais les approfondir ni tellement théoriser, ce que je ferais plutôt à l'écrit, et je vais plutôt tenter de les utiliser pour réfléchir à la circulation et à la réutilisation des éléments du mythe frankensteinien aujourd'hui. Je vous présente très brièvement les épisodes. Il s'agit donc, en ordre de diffusion, de Some Assembly Required de Buffy the Vampire Slayer, dans lequel Buffy lutte contre un adolescent de son école qui a ressuscité son grand frère footballeur, puis a tenté de lui créer une fiancée. Ensuite, de Postmodern Prometheus de The X-Files, qui est probablement le plus célèbre des épisodes dont je parle, dans lequel Mulder et Scully enquêtent sur le père d'un généticien qui a élevé la créature difforme fabriquée par son fils et tente de lui créer une fiancée. Évidemment, ça résume très mal cet épisode-là, mais c'est la trame du récit. Mais je vais en reparler de toute façon. Ensuite, Frankenlaura de Nip/Tuck, où les chirurgiens plastiques Sean et Christian sont chargés de reconstituer des cadavres à partir d'un corps patchwork créé par un désaxé amoureux de sa sœur morte. Ensuite, Time is on My Side, de Supernatural, dans lequel on suit Sam et Dean, chasseurs de démons, qui découvrent un savant du 19e siècle toujours en vie grâce à des organes de remplacement volés sur ses victimes. Ensuite, les 4 autres, Marionnette de Fringe, où une enquête d'Olivia, Peter et Walter qui aboutit à la découverte d'un savant fou qui a récupéré les organes transplantés d'une ballerine pour la ramener à la vie. There's No Place Like Home, de Criminal Minds, où le FBI enquête sur un tueur en série qui sévit pendant des tornades, tentant de reconstituer symboliquement son grand frère démembré. Boy Parts, d'American Horror Story Coven, propose un rituel de ressuscitation du cadavre démembré et recousu d'un adolescent dans une morgue par 2 jeunes sorcières. Et finalement, The Sun Also Rises, de la série Grimm, qui s'intéresse à des scientifiques qui ont tenté de ressusciter le fils de l'un d'eux, mais qui ont créé un monstre en choisissant sans le savoir des membres d'un démon. Alors, à l'écoute en rafale de tous ces épisodes, je n'ai pu que constater que la plupart ne sont pas vraiment autonomes, en fait. Le micro-récit, donc à part les 2 premiers sur lesquels je m'étais basée, le micro-récit frankensteinien, donc je vais parler de cette façon-là dans ma communication, est tissé dans le macro-récit des séries, en fait. Ce qui les rend encore plus intéressants à mon sens, puisqu'ils intègrent l'intertexte à une matrice fantastique plus large, et s'explique aisément par l'évolution de la forme télésérielle au cours de la décennie 2000. Dans mon article, j'émettais l'hypothèse que les épisodes autonomes étaient une particularité des séries hybrides des années 90. Une hybridité entre le feuilleton et la série qui me semblait une période transitoire avant l'émergence d'une vraie complexité narrative dans les années 2000. Les séries ont des structures narratives plus complexes et les véritables épisodes autonomes sont presque chose du passé, même s'il existe encore de rares exemples d'épisodes qui expérimentent avec la forme, la temporalité ou la focalisation narrative. Ainsi, à partir de Nip/Tuck, le 3e épisode, les épisodes frankensteiniens sont partiellement autonomes, en ce que le récit du savant fou et de sa créature ne se poursuit pas dans le reste de la série, restant confiné à l'épisode, mais ils sont également intégrés d'une certaine manière dans le feuilleton, dans la mesure où ils servent immanquablement de révélateur pour les personnages habituels de la série. Dans Nip/Tuck, la façon dont le savant fou perçoit la vie de sa créature, pourtant simple cadavre, met en abîme celle dont les chirurgiens plastiques traitent les corps des femmes dans leurs pratiques et leur vie privée. Dans Supernatural, la méthode pour atteindre l'immortalité développée par le savant fou est l'objet de la quête de Sam comme solution à la mort inévitable et prochaine de son frère, mais révèle surtout les limites morales qu'ils ne sont pas prêts à franchir pour sauver leur peau. Dans Fringe, le corps de la ballerine transformée en marionnette fait écho au sentiment d'Olivia, récemment revenue du monde parallèle, et qui a l'impression que son double lui a volé sa vie et son corps. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, elle reproche à Peter de ne pas avoir vu dans ses yeux, dans les yeux de son double, qu'il ne s'agissait pas d'elle, alors que le savant fou a immédiatement vu dans les yeux de la créature ressuscitée que ce n'était plus la femme qu'il avait aimée. Il en va de même dans les trois autres séries. Criminal Minds, l'attachement du tueur en série pour son frère, rappelle à JJ qu'elle est forcée d'abandonner son fils pour le travail. Dans American Horror Story, le rituel de ressuscitation fait écho aux tentatives de procréation assistée d'une autre sorcière du coven d'avoir un enfant. Alors que dans Grimm, l'hybridité démon-humain de la créature s'inscrit dans les enjeux principaux de la série et la mise en scène de l'amour paternel monstrueux déclenche les angoisses d'un des personnages principaux dont la femme s'apprête à accoucher de jumeaux. L'autre constatation que j'ai pu faire à l'écoute du corpus est d'ordre générique. Je m'attendais à ne trouver que des séries fantastiques, or le policier, le drame, l'horreur et la science-fiction offrent également des exemples marquants. Cette variété générique pourrait sembler anecdotique, mais je pense au contraire qu'elle met en évidence plusieurs points importants. D'abord, elle reflète parfaitement l'hybridité générique du texte original de Shelley, déjà à la frontière du romantisme noir, du gothique et de la science-fiction, et surtout des nombreuses adaptations qui ont suivi, tombant souvent dans le mélodrame, l'horreur ou la parodie. Ensuite, et de manière plus importante pour mon propos, le genre de la série influence grandement le paradigme dans lequel l'intertexte frankensteinien crée du sens et interagit avec le macro-récit. Les séries dramatiques ou policières, Nip/Tuck, Criminal Minds et The X-Files, se déroulent dans un paradigme réaliste et mobilisent donc Frankenstein de manière métaphorique et psychiatrique. En bref, les morts ne reviennent pas vraiment à la vie. Dans les séries fantastiques, de merveilleux et d'horreur, donc Buffy, Supernatural, American Horror Story, Grimm et même Fringe, le paradigme est plutôt magique et le récit frankensteinien de création de la vie ou de réanimation des cadavres est donc interprété de manière littérale. Les monstres sont bien parmi nous. D'ailleurs, dans ces épisodes, issus de séries habituées aux innombrables monstres et manifestations surnaturelles, c'est toujours la science qui surprend, et non les monstres et non le surnaturel. It's not magic, it's science. Doit se défendre le savant fou qui apparaît comme une figure singulière, inattendue, parmi tout un bestiaire de monstres. Cette confusion nous ramène d'ailleurs au roman et à Victor lui-même, obsédé autant par l'alchimie que par la biologie et la physique électrique. Aussi, dans ces séries, les savants fous et leurs créatures sont toujours d'abord pris pour un autre type de monstre, issu du fantastique, en fonction des traces de cadavres qu'ils laissent derrière eux. Ainsi, on les prend pour des vampires, des démons, des prêtres vaudous et leurs zombies, des tueurs en série fétichistes ou des cannibales, donc avant de les avoir rencontrés. À chaque fois, le récit prend la forme d'une enquête et les hypothèses sont nombreuses avant d'en arriver à un savant fou et à sa créature. Cette particularité s'inscrit dans une transtextualité générique, ancrant les récits frankensteiniens dans un réseau plus large d'histoires de monstres gothiques ou d'horreurs, plus ou moins liés au surnaturel, notamment grâce aux origines de Ghost Story, du roman, mais aussi de ses premières adaptations cinématographiques aux côtés des autres Universal Monsters, comme Dracula, le loup-garou, la créature du Black Lagoon. Ce déplacement éloigne les épisodes du cadre épistémique du roman, mais elle permet d'insister sur un autre aspect spécifique du récit de Shelley, les cadavres et leur fractionnement. Ce que ces monstres ont en commun n'est pas la science ou le surnaturel, c'est plutôt leur utilisation du corps humain réduit à sa pure matérialité, qu'il soit utilisé comme source vitale ou comme bloc de construction, drainé de son sang, démembré et dépouillé de ses organes vitaux. Par exemple, dans l'épisode de Supernatural, les victimes offrent au savant fou un réservoir d'organes de remplacement pour prolonger indéfiniment sa propre vie. Au-delà des figures, motifs et structures narratives sur lesquels je vais revenir, qui évoquent le roman de Shelley et ses adaptations subséquentes et qu'il faut décoder, deux éléments nous frappent d'emblée et déclenchent le processus herméneutique, les titres des épisodes et le nom des personnages. Certains titres annoncent de manière assez évidente l'intertexte à venir, créant ainsi un cadre interprétatif pour le spectateur et suscitant des attentes spécifiques chez lui. C'est le cas pour The X-Files avec The Postmodern Prometheus, qui évoque le sous-titre du roman de Shelley, mais annonce dès lors aussi les visées postmodernes des créateurs, mélangeant autant l'esthétique des films noirs des années 30, des freak shows, de la bande dessinée, des talk shows télévisés des années 90 et la musique de Cher. L'autre exemple de référence directe est l'épisode de Nip Tuck qui s'intitule Franken-Laura, reprenant le modèle très courant du mot valise avec le nom de Frankenstein, comme l'a montré Jean-François au début du colloque. Évidemment, Laura est la créature et non le savant fou, reproduisant encore une fois le déplacement sémantique du créateur vers la créature amorcé dès les premières adaptations. Dans l'épisode, la seule évocation directe à Frankenstein est un jeu de mots douteux de l'un des deux chirurgiens plastiques qui fait référence à la créature qui n'est en fait qu'un cadavre rapiécé sans vie, en la nommant Frankengina Wagenstein, lorsqu'il trouve un jouet sexuel laissé dans son vagin par son créateur frère. Parmi les titres des autres épisodes, on peut dégager deux tendances, les jeux de mots plus ou moins enfantins ou euphémiques, par exemple « Some Assembly Required », « Marionnette » ou « Boy Parts », et ceux qui évoquent des œuvres qui n'ont rien à voir avec Frankenstein, enrichissant encore plus le réseau intertextuel mis en place. Pensons à « The Sun Also Rises » dans Grimm, qui évoque le roman éponyme d'Ernest Hemingway, donc sur la Lost Generation, ou à Supernatural et son épisode « Time is on my side », en référence à une chanson surtout connue dans son interprétation par les Rolling Stones. Le protagoniste de la chanson annonce qu'il a tout le temps devant lui et que « I'll always be around », comme le savant fou devenu immortel dans l'épisode et contrairement au personnage de Dean, dont la mort annoncée est imminente, tissant ainsi des liens, dès le titre, entre le micro-récit frankensteinien et le macro-récit de la série. De son côté, l'épisode de Criminal Minds fait plutôt référence au magicien d'Oz, puisqu'il s'intitule « There's no place like home ». Ce lien entre Frankenstein et Wizard of Oz est tout à fait intéressant, l'un utilisant les éclairs et l'autre les tornades pour renverser les règles de la nature, mais aussi la magie du magicien d'Oz relève bien plus des mystifications du savant fou que des pouvoirs surnaturels, et la plupart des personnages de Wizard of Oz sont finalement des automates en quête de vie et d'humanité. La référence est également territoriale, puisque la série Criminal Minds est, comme The X-Files et Supernatural d'ailleurs, une exploration de l'ensemble du territoire américain et des pulsions les plus sombres, les mythes les plus destructeurs qui s'y terrent, donc ici le Kansas. Mais ils vont dans le cas spécifique de cet épisode-là. Puis il y a les noms. Dans aucun des épisodes du corpus, le savant fou n'est directement nommé Victor Frankenstein. Les noms choisis pour désigner le savant fou et sa créature sont parfois significatifs et transparents dans leur évocation du roman. Par exemple, dans The X-Files, il s'agit du docteur Polidori, marié à une certaine Elisabeth, et dans Grimm, c'est plutôt Victor Shelley. Mais parfois, l'intertexte est absent ou particulièrement crypté. En fait, on se prend à chercher à tout prix des liens, là où il n'y en a sans doute pas. Le savant et sa créature dans Buffy ont le nom de famille Epps, E-P-P-S. Il s'agirait-il d'une référence au phrénologue contemporain de Mary Shelley, John Epps, qui croisa le chemin de Lady Byron, ou plutôt à l'un des quatre joueurs de football professionnels qui portent ce nom de famille, puisque le personnage est un joueur de football vedette. Et Carl Spencer, la créature dans American Horror Story, est-ce une évocation d'Herbert Spencer, le père du darwinisme social? En fait, ce jeu de pistes herméneutiques autour du roman du savant fou et du titre des épisodes nous conduit aisément à la surinterprétation, à créer des liens là où il n'y en a pas forcément et s'inscrit dans une logique de réception propre aux communautés de fans en quête d'Easter eggs et de leur inventaire minutieux. Plutôt que d'opter pour des réseaux de signes parfaitement construits et cohérents qui viseraient une adaptation au sens propre, l'intertextualité frankensteinienne laisse des traces parfois évidentes, parfois incertaines, se fondant dans les récits et s'amalgamant avec toutes les autres références surabondantes typiques de la culture pop postmoderne. En fait, plutôt qu'aux théories de la transfictionnalité, qui ne s'appliquent pas tout à fait à mon avis ici, ou aux théories de l'intertextualité, qui ne me permettent pas vraiment d'observer comment le sens peut émerger de ces références, le mythe littéraire serait sans doute utile, j'ai plutôt envie de me tourner vers la théorie de la figure développée par Bertrand Gervais, d'autant qu'elle m'avait bien servi pour définir la façon dont les savants fous peuplent les textes, dans ma thèse, et que nous sommes bel et bien devant un prolongement de ce système sémiotique. Selon Bertrand, que je cite brièvement, « La figure attire le sujet et en même temps lui résiste. Elle se présente comme une énigme et qui inquiète, car exigeant d'être résolue, et rassure parce qu'elle est déjà posée. La figure engage en ce sens l'imagination du sujet, qui dans un même mouvement capte l'objet et le définit tout entier, lui attribuant une signification, une fonction, voire un destin. » La particularité de cette figure du savant fou, mais aussi celle de la créature, qui traverse les épisodes de mon corpus et que la signification que lui attribue le sujet est alimentée par deux sources. La première est interne aux œuvres, les traces, notamment les cadavres et les survivants amputés qui apparaissent partout, étant nombreuses. La seconde est de l'ordre de l'encyclopédie des lecteurs, et par lecteur, je veux parler autant des personnages d'enquêteurs dans les œuvres que des spectateurs de la série, qui connaissent Frankenstein et ses multiples adaptations et peuvent identifier un certain nombre de signes qui permettent d'ajouter une couche de signification et de symbolisme supplémentaire à la figure. Non seulement nous sommes face à un savant fou, avec tout ce que cela implique, mais en plus nous sommes face à un savant fou dans un monde post-Frankenstein, dont le statut quasi-mythique oriente forcément l'interprétation. Cette stratégie sémiotique qui dépasse la simple intertextualité rend d'ailleurs possible la greffe de fiction, d'une certaine façon, dans des séries qui ont déjà leur mythologie propre, leur réseau de personnages, leur macro-récit, leur matrice. D'ailleurs, les structures narratives des épisodes en disent assez long sur leur rapport au roman, aux autres fictions et à leur propre macro-structure. Par exemple, un des aspects les moins souvent adaptés du roman de Shelley, à l'exception du film de Kenneth Branagh, dont on a déjà parlé abondamment, est le récit cadre épistolaire dans lequel Walton raconte sa découverte de Victor Frankenstein avant qu'il ne prenne la parole et raconte sa propre histoire, qui est éventuellement interrompue par le monstre lui-même qui raconte sa propre version. Cet emboîtement de récit est la raison pour laquelle le roman est si efficace dans sa réflexion sur l'identité, la morale et le statut des sujets. Dans l'épisode de The X-Files, Chris Carter s'amuse à créer un autre récit cadre qui n'a rien à voir avec celui de Shelley, mais qui finit par avoir la même fonction, la même efficacité narrative. Puisqu'il s'agit de la version postmoderne annoncée, le récit cadre est celui d'une bande dessinée, The Great Mutato, créée par un des personnages témoins de l'histoire, narrateur très peu fiable, et qui met en scène le monstre de l'histoire dans un cadre épistémique relevant du freak show. La première image pré-générique, le cold open de l'épisode, montre la couverture couleur de la BD, puis les cases de la première page en noir et blanc, qui se transforme par un fondu enchaîné en images réelles en noir et blanc, vous l'avez vu au tout début, et sert donc à créer un cadre narratif, esthétique et épistémique qui permettra à l'épisode de se déployer et aux spectateurs de comprendre que les codes habituels de la série seront détournés, mais sans pour autant la trahir. En témoigne le générique d'ouverture habituel et en couleur de la série qui interrompt brièvement la cohérence de l'épisode en noir et blanc. Au cœur de l'épisode, on a également une scène dans laquelle la créature, le grand Mutato, interrompt le récit et prend finalement la parole pour raconter sa version des faits, assez en longueur d'ailleurs, et déplacer la focalisation narrative alors qu'il apparaît clairement à l'écran pour la première fois. Du monstre terrifiant et typique de la série, il devient sujet et suscite immédiatement l'empathie de Mulder et Scully, tout comme celle du spectateur qui voit dans la foule en colère munie de torches et encouragée par le problématique docteur Polidori, le véritable monstre moral du récit. Évidemment, comme le roman de Shelley, le récit en chassant qui avait ouvert l'épisode vient aussi le refermer, permettant à la fois à la série de continuer comme si de rien n'était et de prendre des libertés à l'intérieur même des épisodes. Les autres séries aussi adoptent d'une certaine façon une structure narrative enchâssée, de manière moins spectaculaire et formalisée, mais peut-être plus révélatrice des particularités formelles du corpus. C'est que les récits de création ou de reconstitution de cadavres est enchâssé non pas par la lettre d'un explorateur, mais par le macro-récit de la série elle-même. Avant de découvrir un avatar de Frankenstein, on entre généralement dans l'épisode en suivant la matrice habituelle de la série en particulier. Dans Buffy, c'est Buffy elle-même qui patrouille dans le cimetière comme à chaque jour, rejoint par Angel, puis lorsqu'elle est confrontée à la situation inhabituelle d'un pillage de tombe, elle se rend à la bibliothèque de son école secondaire pour consulter son mentor et ses amis, les livres anciens et Internet. De même dans les autres séries, dans Epitoc, il s'agit d'une consultation auprès du duo de chirurgiens plastiques. Dans American Horror Story, de la vie quotidienne du coven et des sorcières de la Nouvelle-Orléans, etc., etc. On étudie en général, moi y compris, depuis les travaux de Jason Mittel, les séries contemporaines comme étant d'une grande complexité narrative. Les récits épisodiques, saisonniers et sériels s'entrecoupant constamment. Mais je pense que l'étude d'un cas singulier comme celui-ci permet d'établir une analogie avec les études narratologiques romanesques plus classiques. À l'échelle de l'épisode, l'enchâssement des récits et leur enchevêtrement fonctionnent définitivement de manière analogue à celui que l'on voit dans des romans comme Frankenstein, tant sur le plan de la prise de la parole et de la focalisation narrative que sur les ruptures formelles et les échos que les récits des uns provoquent chez les autres. Et ce, même si le format audiovisuel impose une caméra au moins en apparence objective. Si Walton voit dans la narration de Victor des échos de ses propres pulsions épistémiques et agissements problématiques, Et si Victor voit dans le récit de sa créature un reflet de ses propres angoisses morales et de ses regrets, les séries fonctionnent de même. À l'exception de American Horror Story, dans lequel le savant fou correspond aux personnages principaux de la série, féminin de surcroît, l'expérience de création est d'abord découverte par les personnages de la série avant d'être montrée, grâce à des caméras de surveillance, par exemple, dans Grimm, ou racontée par le savant fou la créature que l'on interroge pour faire avancer l'enquête. C'est que contrairement au roman dans lequel Victor Frankenstein prend la parole volontairement pour prévenir un collègue des dangers de l'hubris, les savants fous et leurs créatures dans les séries sont d'abord et avant tout des suspects ou des accusés, parfois des spécialistes consultés ou des victimes. Une des raisons principales de ce déplacement est la structure policière de la plupart des épisodes, même les plus fantastiques, la présence du savant fou se déployant sous forme d'enquête policière. Le savant fou est donc l'antagoniste à découvrir et identifier, et sert de quête et de révélateur à l'épisode. Or, ces nombreux récits policiers, conduisant à la révélation d'un couple frankensteinien, ils nous ramènent à la question identitaire au cœur des romans policiers et du roman de Shelley. Avant de conclure, j'aimerais faire un tour des nombreux signes qui traversent les épisodes de mon corpus et contribuent à alimenter cette figure du savant fou frankensteinien. Ceux-ci peuvent être des personnages, des traits, des motifs, des lieux, des objets, des effets de mise en scène, qui ont tous en commun d'être très spécifiques et aisément repérables. La plupart du temps, leur signification n'est que, ou surtout référentielle, en bref, leur fonction est de rappeler Frankenstein ou l'une de ses adaptations. La plupart de ces éléments mériteraient des analyses en soi, mais je vais me limiter aujourd'hui à un inventaire un peu sommaire. D'abord, les lieux liés à la mort, comme le cimetière et la mort, sont omniprésents. Par exemple, l'épisode de Buffy sauve dans le cimetière, comme d'ailleurs la plupart des épisodes de la série. Le cimetière apparaît également dans Grimm, de même que le funérarium, qui joue un rôle central dans l'épisode. D'autre part, la morgue est un lieu important dans 3 épisodes. Ensuite, le laboratoire isolé du savant fou est souvent dans un sous-sol de maison, mal éclairé, avec une civière au centre, un corps que l'on devine sous un drap blanc, des schémas anatomiques décorant les murs. Donc, c'est le cas dans 4 séries. Ce type de laboratoire est sans doute le plus près du roman original et est immanquablement découvert par les personnages qui enquêtent dans la série en descendant craintivement et lentement les escaliers menant au sous-sol, dans lequel des ondes d'ombre restent ou parfois se terre la créature. Sinon, il s'agit de laboratoires institutionnels, souvent universitaires, c'est le cas dans 2 séries, ce qui est inscrit dans une évolution et une institutionnalisation du savant fou. Finalement, la création a parfois lieu directement à la morgue, dans 2 séries, ou dans un vieux camping-car évoquant Breaking Bad, dans Criminal Minds. Puis, le meurtre est introduit souvent pour accomplir l'expérience. Donc, contrairement au roman, les savants fous tuent pour accomplir, donc par manque de cadavres frais en général. Mais ce motif était déjà présent dans nombreuses adaptations filmiques. Le créateur de monstres évoque souvent davantage la figure du tueur en série que celle du savant fou, puisqu'ils sont rarement des scientifiques et on les identifie par la traînée de cadavres qu'ils laissent derrière eux. Dans Fringe, les victimes, parfois toujours vivantes, sont celles qui avaient reçu des dons d'organes de la femme ensuite ressuscitée. Dans Supernatural, le savant fou, créature, donc c'est la même personne, récolte également les organes spécifiques de remplacement dont il a besoin et laisse parfois ses victimes en vie. Aussi, plusieurs épisodes débutent par la découverte de fragments de cadavres ou les cadavres manquants des membres trouvés dans l'espace public, comme autant de signes. Cette exhibition des cadavres et ces pistes laissées derrière eux éloignent également du roman et nous rapprochent davantage de Dracula. Un autre élément récurrent est l'éclairage dramatique et la contre-plongée radicale inspirée des films expressionnistes allemands qui annoncent le savant fou, alors que la créature émerge, elle, presque toujours de la pénombre et s'avance doucement dans la lumière. Sinon, la créature est révélée brutalement en pleine lumière. Aussi, contrairement au roman, les créatures ont souvent des noms, ceux de personnages décédés et aimés, parce qu'ils sont créés avec l'ambition de faire revivre quelqu'un et non celle de créer un nouvel être. Donc, c'est logique qu'il y ait des noms de personnes vivantes et anciennement vivantes. Donc, la question du sujet est plus ou moins évacuée, mais les questions de la persistance de l'identité au-delà de la mort et du deuil le sont largement. Sur le plan physique, presque toutes les créatures ont des sutures très apparentes et des organes et des membres disparates. La seule exception sur les 8 est The X-Files, puisqu'il s'agit de créations par manipulation génétique. En fait, c'est assez surprenant que la chirurgie et la reconstitution de cadavres par fragments soient aussi dominantes et que la génétique soit aussi absente. Il semblerait qu'il s'agit d'un trope quasi inévitable du genre. Je pense que la dérive vers le monstre d'horreur, le tueur en série et le fantastique expliquent en partie cela. Mais il y a aussi que la génétique ne déclenche pas pour le moment une peur aussi viscérale que celle du cadavre fragmenté, qui demeure une peur qui émerge de l'inconscient, contrairement à celle de la génétique. Une autre question assez importante dans le corpus est celle du genre et du corps féminin. 2 épisodes racontent la création d'une créature femelle comme fiancée d'une première créature même, Mal, donc comme dans le roman, donc Buffy et The X-Files, ce qui reprend évidemment le récit original, mais soulève des enjeux de genre assez problématiques dans le nouveau contexte d'énonciation, évidemment. D'ailleurs, dans l'épisode de Buffy, comme dans le film Weird Science, les images de magazines féminins sont découpées et servent de modèle à la création d'une fiancée. C'est donc le corps médiatisé, objectifié, idéalisé, fragmentable et sursexualisé des femmes qui sert de modèle. Autrement, dans Fringe et Nip Tuck, il y a une seule créature et c'est une femme, dont le cadavre est approprié par des hommes possessifs et obsédés sexuellement et émotionnellement, au point de vouloir les contrôler dans la mort et les forcer à revivre pour eux. Dans ces deux cas, il semble évident que ces femmes n'avaient aucun sentiment réciproque et parfois même pas de relation, et qu'il s'agit d'une forme de prédation particulièrement troublante et violente. Les séries ne vont pas très loin dans la critique, mais elles le font tout de même. Enfin, dans American Horror Story, on assiste à un renversement complet des genres, puisque le rôle du savant fou est occupé par deux jeunes femmes, même des adolescentes, qui ressuscitent un jeune homme avec qui l'une d'elles avait effectivement une relation. Elles choisissent d'ailleurs les membres les plus attrayants trouvés à la morgue pour le reconstituer. Dans la suite de la saison, ils forment d'ailleurs un ménage à trois assez troublant. D'ailleurs, il y a quelques exemples de duos de savants fous, un motif qui vient des films plutôt que du roman de Shelley, dans lequel la solitude de Victor était centrale. C'est le cas dans Buffy, American Horror Story, et jusqu'à un certain point dans X-Files. Dans Grimm, c'est plutôt une équipe de scientifiques, donc ce qui est intéressant parce que c'est la dernière. Finalement, mais il y en aurait bien d'autres, une autre récurrence est la mort de la créature par le feu. Ce motif répond autant à la version romanesque dans laquelle la créature annonce qu'elle se suicidera en s'immolant sur un bûcher funéraire, que dans la version cinématographique où la foule en colère détruit la créature avec des torches. Dans les séries, l'utilisation du feu est très variable. Dans Buffy, il s'agit d'un feu accidentel dans lequel la créature se lance et meurt avec sa fiancée inachevée. Dans The X-Files, il s'agit d'un feu de grange déclenché par une foule en colère, mais qui ne tue pas la créature finalement. Dans Nip Tuck, le corps de la créature est démembré et brûlé dans un four crématoire. Les autres morts vont des balles de fusil à la tornade en passant par l'enterrement vivant. Les deux dernières survivent à la fin du récit. En conclusion, je voudrais aborder un aspect qui me semble important ici pour bien comprendre le corpus tant il le traverse entièrement et ce qu'il fait à et de Frankenstein, le déplacement des intentions des personnages de savants fous. Tous les épisodes, sans exception, présentent des savants fous aux motivations bien éloignées de celles de Victor Frankenstein, obsédé par sa quête épistémique pure, complètement aveugle aux conséquences possibles et aux enjeux moraux. Les savants fous de ce corpus agissent en connaissance de cause, ne se gênent pas pour tuer et surtout ils agissent pour ressusciter quelqu'un et non développer un savoir nouveau. Et ils le font tous par amour. Dans la très vaste majorité des cas, il s'agit d'amour fraternel ou filial, alors qu'un seul cas est basé sur un amour romantique, Fringe, un autre sur un amour incestueux, Nip Tuck, et un dernier sur un amour de soi, Supernatural. Nous avons donc 6 séries qui présentent des savants fous qui tentent de recoudre le cadavre de leur fils, de leur frère ou de leur sœur, incapables de faire leur deuil. Leur comportement est donc plutôt de l'ordre psychique ou psychiatrique, ce qui les rapproche davantage du fou que du savant, contrairement aux autres exemples littéraires de savants fous, souvent d'une grande froideur émotionnelle, mais aussi procèdent à un retour à la famille traditionnelle et à la filiation qui avait justement été abandonnée par Victor Frankenstein dans son mariage toujours repoussé et avorté, dans sa procréation artificielle et dans son abandon de sa progéniture. Les séries nous montrent plutôt des savants fous dont l'attachement familial est problématique et destructeur, renversant ainsi le sens du récit frankensteinien et le déplaçant vers des enjeux plus contemporains, comme celui de la santé mentale. Et évidemment, ce déplacement vers des motivations plus psychologiques et émotionnelles s'inscrit dans une logique télésérielle dont la structure à rallonge impose de créer des enjeux à long terme pour les personnages et des lieux d'investissement pour les spectateurs.